nous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Semer le vent. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Arrivé sur la place du village où se trouve la mairie, il trouve Georges et deux témoins de Paris. Georges est tout excité. La mairie est une vieille maison bourgeoise de deux étages avec des escaliers sur le devant, devant l'entrée, pour entrer. La cérémonie se passe assez rapidement. Hilde n'a rien entendu. Ils ont signé et Georges les a ramenés pour boire et offert à dîner. Il est très heureux. Hilde ne dit mot. On pense que c'est l'émotion. Cela fait bien une mariée qui est timide. L'après-midi se passe bien. On se promène. On parle d'avenir. Georges va mettre de l'argent dans le canal de Suez et dit à Franck d'en faire autant. Franck lui dit, Il faut d'abord que je trouve une héritière. Tous rient, sauf Hilde. Elle se demande ce qu'elle fait là. Puis, il y a eu le dîner. Ça se passe gentiment. On parle de Paris. Georges lui dit à Hilde qu'il a quelque chose à lui montrer à Paris. Ensuite, ils se sont quittés. Un témoin, un grand blond, dit à Georges, « La mariée ne reste pas avec toi ?» Il lui répond, « Non, je ne suis pas vraiment mariée. Mais demain, oui. » Et ils se quittent. Hilde est très triste. Elle sait que demain va commencer une nouvelle vie pour elle. Arrivée au château, elle va retrouver sa chambre. Elle se dit que c'est la dernière fois qu'elle y va. Coucher ici. Oui, c'est la dernière fois qu'elle couche ici. Ça l'attriste beaucoup. Une fois couchée, elle reste éveillée. Une heure plus tard, on a frappé à la porte. Elle se soulève, soupire, et se dit que c'est peut-être le miracle que Luc vient la prendre. Elle dit, entrez. La porte qui s'ouvre. Elle voit une ombre et se dit, elle s'approche. Oui, c'est Luc. Il vient la chercher. L'ombre se penche sur elle. Elle dit, oui, Luc. Je peux passer la nuit avec toi. Ce n'est pas Luc, c'est son frère. Il lui dit encore, je ne sais pas pourquoi, mais je suis tant triste de te voir partir. Elle lui dit, oui, viens. Elle lui fait une place et il s'allonge à ses côtés. Elle lui dit, je ne savais pas que c'était si triste de te perdre. Et toi? Elle lui dit, moi aussi, c'est difficile. Il lui dit, tu te souviens de notre enfance? Oui, nous étions heureux, à notre façon, toujours ensemble, personne entre nous. Je t'ai appris des tas de choses. Je ne savais pas que ça allait finir. Après la mort de nos parents, j'ai pas vraiment ressenti quelque chose. Peut-être parce qu'ils étaient des adultes, que nous vivions dans un monde à part. Maintenant, le monde nous a rattrapés. qu'elles ont dû devenir. Toi, une femme mariée, vivant dans le grand monde, et moi, elle lui demande. Le château ne t'intéresse plus ? Elle lui dit. Si, je vais le garder. Mais pourrais-je y vivre ? Elle lui dit. Je n'aime toujours pas mon fiancé, enfin, mon mari. Il lui dit, ça viendra, les gens disent. Tu verras. Et puis, si tu veux, tu as pensé à quelque chose qui t'a troublé, qui n'a jamais existé. Elle lui dit, si Luc a existé, il existe. Oui, mais pas comme tu le vois. Luc n'est pas un rêve, il n'est pas un dieu ou un héros. Elle lui dit, qu'est-ce que tu en sais? Et puis, si je l'aime, c'est qu'il est comme les héros de mes livres, comme le pirate de Byron. Il dit, je n'aurais jamais dû lire ce livre. Il n'est pas pour les filles. Elle lui dit, toi tu l'as bien lu. Oui, mais il ne m'a pas fait tourner la tête. Je ne rêve pas. Enfin, pas comme toi. Elle lui dit, pourtant, lorsque nous étions enfants, l'on rêvait, tous les deux, d'aventures et d'amour impossible. Il lui dit, oui, bien sûr, mais à un moment, il faut savoir fermer le livre d'images. Moi, c'est ce que j'ai fait. Elle lui dit, je ne suis pas sûr. Je crois que non. Pourquoi tu dis ça? Parce que je le vois dans tes yeux. Mes yeux? Mais tu ne peux pas les voir dans le noir. Elle se penche face à lui et lui dit, oh que oui, je ne vois que ça. Il brille comme du diamant. Elle lui dit, les tiens aussi. Elle lui dit, c'est normal, nous sommes pareils. Il se taise un moment et elle lui dit, nous sommes pareils. Et tu me maries. Pourtant tu sais ce que je ressens. Il lui dit, oui. Elle se rallonge et se tourne. Puis elle lui dit, demain, je serai plus là. Où serai-je? Il lui dit, sans doute en route, pour un long voyage, voyage de noces. Elle lui dit, je n'aime pas ça. Ça me gêne de savoir que Georges sera toujours près de moi. Il lui dit, mais non, il aura son travail. Il se taise. Il lui demande, à quoi penses-tu? Elle lui dit, au vent, au vent. Je sais pas pourquoi, mais au vent. J'aimerais que le vent m'emporte très loin, très loin. J'ai peur. Serre-moi très fort. Ils s'embrassent. La douceur d'or de leur corps leur font oublier qu'ils sont frères et sœurs. Ils sont enivrés l'un par l'autre et s'endorment. lendemain matin, il se réveille presque en même temps. Il fait jour. Il lui dit, il faut se lever. Une rude journée commence pour toi. Allez. Et se serre fortement contre son frère et lui dit, lorsque tu es rentré dans la chambre, j'ai cru que c'était Luc. Il lui dit, je sais. L'embrasse sur le front et se lève. Allez, lève-toi, prépare-toi. Tu veux ton petit déjeuner ? Elle lui dit, non, et puis il faut communier. Il la laisse. Dans la calèche qu'ils amènent au château pour le mariage, il lui dit, je sais ce que tu ressens, je te remercie ce que tu fais pour moi, mais tu verras, tu seras heureuse. Ils arrivent au château. Il y a devant la chapelle du monde beaucoup d'invités. Ils arrivent, le cortège se fait et ils entrent dans la chapelle. La cérémonie est longue, très longue. Elle est toute tremblante et ne voit rien. Ses jambes la tiennent à peine. Après la cérémonie, ils sont sortis. Et ils ont jeté des dragées des pièces.
Bonjour, bonsoir. C'est un travail, vous allez vous sentir un peu isolé. Bonjour, madame.
Te fatigue pas, maman, je veux pas venir.
Mais c'est pas ça, je connais personne, je suis pas invité. C'est un peu gênant.
Oh, arrêtez de faire des manières, vous accompagnez Maïté, puis c'est tout.
Puis, ils sont allés au château pour le repas. Elle n'a presque rien mangé. Après le repas, tout le monde va se préparer pour le bal. Elle mettra une belle robe de bal en soie crème. Georges a son smoking. Les valises sont prêtes La berline aussi. Tout est prêt pour le voyage. Elle va dans la chambre. Sa chambre. S'allonge. Dans sa chambre. Avant le bal. Sa chambre. Elle n'arrive pas à y croire. Ce lieu, sans rien, comme souvenir, sa chambre. Puis, on frappe à la porte.
Oui, madame, il est l'heure de vous préparer pour le bal.
Merci. Elle se lève, engourdie, et commence à se préparer. Une bonne laide. Une heure plus tard, elle dit à la bonne, « Dites à monsieur que je suis prête. »«
Bien, madame. »
Et son mari est venu la chercher. Ils ont descendu le grand escalier pour aller rejoindre les invités qui les attendent en bas. Tous les salons ont été ouverts en enfilade. Il y a une salle de bal, un buffet, un fumoir pour les hommes et à l'étage des chambres et des boudoirs pour les femmes. Le jardin aussi est tout illuminé. Comme ça, les gens peuvent se promener pour prendre l'air. Les serveurs habillés à la française, couleur bleue, roi, circulent pour apporter les boissons. Lorsqu'ils arrivent, tout le monde les regarde et les trouve très beaux. Georges est beau. Ce n'est pas parce que Hilde ne l'aime pas qu'il n'est pas beau. Elle ne l'aime pas parce que ce n'est pas Luc, mais il est beau, et d'une beauté plus posée, plus sérieuse que Luc. Mais il est très beau. On les félicite encore. Ils sont présentés à des personnes qui n'étaient pas là l'après-midi. Puis les gens vont boire et manger au buffet. Franck va vers sa sœur et lui dit, « Puisque c'est moi le chef de la famille, je dois te faire danser. » Georges lui dit, « Je suis le mari, je dois la faire danser en premier, toi après. » Il lui dit, « Je suis dansé avec moi en premier. Il était le seul membre de ma famille depuis presque toujours. Bon, allez-y. » Et ils y vont. Tout en dansant, Franck lui dit, je souhaite beaucoup de bonheur. Elle lui dit, merci. Je ne sais pas si je serai heureuse, mais j'espère être une bonne femme. Puis, ça a été au tour de son mari de la faire danser. Et la soirée se continue. Des tas de jeunes gens se disputent pour une danse avec elle. Ce sont des gens qui viennent de Paris. Disent qu'ils n'ont jamais vu une fille aussi jolie. À minuit, Georges va vers Hilde et lui dit, mon chéri, il est temps de partir. Les bagages sont déjà dans la berline. Viens. Elle lui fait, mais, il lui dit, il faut s'en aller. Sans rien dire. On ne peut pas arrêter la fête. C'est la coutume. Il la prend par la main et la fait sortir de la maison par la sortie de service. Franck les a vus. Il les suit. La berline est juste devant la porte. Il s'engouffre dedans. Il a l'impression d'être enlevé. Au moment où ils se sont assis et fermé les portières, Franck apparaît à la portière. Au revoir et bon voyage. Georges lui dit, merci. Oui, merci. Franck a les larmes aux yeux. Il dit, Hilde. Oui, il lui dit, tu ne m'en veux pas, dit, elle lui dit, non, c'est le destin qu'il a voulu. Georges demande, vous vous êtes disputé? Il lui dit, oh, ce sont des choses qui sont finies, il ne faut plus y penser. Georges lui dit, alors partons. Et la berline se met en route. Elle quitte le parc et s'enfonce dans la nuit. Il fait très sombre. Hilde se met à pleurer. Il la prend dans ses bras et lui demande « Qu'as-tu ?» Elle lui dit « Ce n'est rien. La tristesse de quitter le pays comme ça. » Il lui dit « Ne sois pas triste. Tu nous retrouveras bientôt. Allez. » Et ils ont roulé pendant au moins 2 heures, 2 longues heures. 2 heures qui leur ont paru interminables. La fatigue, l'anxiété d'une nouvelle vie, même pour Georges, et puis ce côté lugubre de cette berline. Et puis, le bruit, il fait du bruit. Tout ça les attriste et les empêche de se parler. Ils ont hâte des arrivées et peur. Enfin, après 2 heures, la berline s'arrête devant une auberge de campagne. Sortis de la berline combaturée. Ils sont entrés dans l'auberge, grande pièce avec des tables de bois, des bancs, un feu de cheminée, des escaliers qui montent à l'étage. C'est mal éclairé et ça sent le tabac, le grand et la bière bon marché. Il regarde tout ça avec tristesse. Il dit, c'est pour une nuit. Après, nous allons aller dans des lieux plus coquets. L'aubergiste, un homme, petit, gros, à cheveux gris, tablier gris, casquette et pipe, leur demande.
Et pourquoi?
Georges lui dit, deux chambres pour la nuit.
Bien, suivez-moi. Nous en avons justement deux.
Et il monte les escaliers de bois poussiéreux. Longe un long couloir. Il ouvre une porte de bois. Petite chambre minuscule avec un lit à deux places. Un drap et drap d'or rouge sur le lit. Il demande,
celle-ci vous va?
Georges lui dit, oui, merci. Puis il va vers une autre porte. Elle est identique à l'autre.
Celle-là aussi.
Georges demande à Hilde, qu'est-ce que tu en penses? Elle lui dit, c'est bien, merci.
L'aubergiste lui dit, il faut payer d'avance.
Il donne un prix, Georges le paye, il a les deux clés. Une fois que l'aubergiste est parti, Georges demande, tu désires quelque chose? Elle lui dit, non. « Je ne crois pas. » Il dit, « Bon, nous sommes tous les deux très fatigués. Demain, après le petit déjeuner, nous partons pour Paris. Je vais te montrer quelque chose là-bas. Après, nous partirons. Continuerons notre voyage. » Il est troublé. Il l'embrasse et lui demande, tu n'es pas trop déçu? Elle lui dit, mais non, de quoi? Je sais pas. Mais nous avons tout notre temps pour cela. Elle lui dit, merci. Et elle le laisse. Épuisée, elle se déshabille. Et se couche, sans voir si les draps sont propres ou non. Et elle dort d'un coup. Sommeil noir. Lui aussi, mais il est heureux. Le lendemain, il est allé la réveiller à 9h, pour un bon petit déjeuner, ils sont repartis en berline. Ils ont mis 2 jours pour aller jusqu'à Paris. Arrêtés dans des auberges semblables à la première et ont mangé et dormi. Il a toujours demandé 2 chambres et n'a pas ennuyé. Durant le trajet, il la prend dans ses bras, la caresse ses joues, les mains, lui donne des baisers et lui dit qu'il l'aime. Elle le sait faire et essaye de répondre à ses gentillesses, mais elle n'y arrive pas. Il se dit qu'elle doit être timide. Souvent, elle lui dit, se marier femme maintenant, nous ne formons qu'un. Il voit que ça ne lui dit rien. Il se dit qu'elle ne comprend pas ce que veut dire mari et femme. Bien sûr, personne n'a dû le lui dire. Elle n'a pas eu de mère. Il doit être patient. Arrivée à Paris, elle est surprise par ces grandes avenues.
Non, non.
Cette foule. Ces grandes et belles maisons, ces places, tous ces magasins, cafés, restaurants. Et ces gens, il y en a tellement. Tous ces fiocres. Omnibus, calèches qui vont, viennent dans tous les sens.
Madame Désir.
Ça lui donne le tournis. Il lui montre l'avenue de l'Opéra qui se construit, les Champs-Élysées, le Louvre, Notre-Dame, les Tuileries, bien sûr, elle ne sait plus. Puis, il lui dit, maintenant, je vais te montrer notre chez-nous. Parce que j'ai acheté dans un endroit magnifique quelque chose comme ça. Lorsque nous serons à Paris, nous aurons quelque chose à nous. Nous serons chez nous, ici, à Paris. Ça te dit? Elle lui dit, tu as quelque chose ici? Oui. Et ils vont dans le quartier du Marais. Et l'hôtel s'arrête. Non, la berline s'arrête devant l'hôtel. Ils sortent de Berlin. Elle est émerveillée, c'est magnifique. Il lui dit, ça appartenait à Pompadour. Viens. Et il lui a fait montrer, il lui montre l'hôtel. Il a tout rénové. Réparer même la façade recrépie, acheter des meubles d'époque Louis XV avec tout ce qui va, et est ébloui par tout ça. Il lui dit, nous sommes chez nous. Au lieu d'aller à l'hôtel, nous irons ici. Ça te va? Oui. C'est merveilleux. Il reste une semaine à Paris. Georges se comporte plutôt comme un ami que comme un mari. Il ne veut pas la brusquer et ne cherche pas à aller dans sa chambre.
Et que se mette une sensible joie que l'honneur de vous voir. Mais avec tout cela, je ne vous assurerai point que je me réjouis du dessein où vous pourriez être, de devenir ma belle-mère. Le compliment, je vous l'avoue, est trop difficile pour moi, et c'est un...
Il l'invite à des spectacles.
Ce discours paraîtra brutal aux yeux de quelques-uns, mais je suis persuadé que vous serez personne à le prendre comme il faudra. Que c'est un mariage, madame. Vous vous imaginez bien que je dois avoir de la répugnance. Que vous n'ignorez pas, sachant que je suis...
Ça vous plaît, le cancan?
J'ai mieux de ça que de faire la lessive.
Ouais.
Pecado.
Wilde trouve la ville bruyante. Alors, il décide de partir. Partis. Leur destination c'est la Grèce, mais ils vont passer par la Suisse, l'Italie. Le voyage est pénible mais agréable. En Italie, ils sont allés à Rome. Ils sont allés dans un bel hôtel de prix. Ils ont pris une suite. Georges est satisfait. Il est très heureux. Il trouve sa femme délicieuse. Elle semble en pleine forme. Oui, elle semble en pleine forme. En dînant, dans la salle à manger de l'hôtel, un bel hôtel du 18e, il y a du monde, surtout des Anglais et des Autrichiens. Il lui dit,
je te trouve en pleine forme ce soir.
Il lui dit, merci.
Tu dois être complètement rétabli.
Oui, je crois. Le voyage m'a fait du bien, le changement de climat.
Il lui dit, eh, j'espère moi.
Elle lui sourit,
oui, bien sûr. Elle le trouve gentil, très gentil.
Je dis que ce n'est pas trop pénible d'être sa femme. Il ne la brusque jamais. Et lui offre tout ce qu'elle veut.
Oui, c'est même pas pénible du tout. Mais malgré elle, il ne peut s'empêcher de penser à Luc. Peut-être parce que Luc, c'est autre chose que la sécurité. C'est la fougue, disons en gros la jeunesse. L'amour de Luc lui permet de rester une petite fille, tandis que celui de Georges l'a fait entrer dans un monde inquiet, avec des responsabilités, le monde des adultes. Elle pense maintenant à Luc et à peur de ne plus le revoir. Le soir, en allant à leur chambre,
Avant qu'elle n'entre dans sa chambre, Georges lui dit « Tu es délicieuse ce soir. » Son regard semble bizarre à Hilde. Elle entre dans sa chambre et se prépare pour la nuit. Lui est dans sa chambre, se prépare aussi. Une demi-heure plus tard, elle est allongée. On a frappé à la porte.
Oui, je peux entrer.
Elle se dit que c'est Georges. Qu'est-ce qu'il veut lui dire?
Oui, tu peux entrer.
Il entre. Il est en robe de change bordeaux, s'approche du lit, se penche vers elle et lui dit
« Mamie, vous êtes délicieuse. »
Il prend la main, les garde et les embrasse. Il embrasse la main. Elle est gênée. Il met sa tête sur sa poitrine. Elle ne sait que faire. Elle ne peut pas le rejeter, il est si bon. Il lui dit
« J'aimerais tant te rendre heureuse, vraiment heureuse. Nous sommes mari et femme, n'est-ce pas? J'aimerais tant enfin. Souhaitez-vous que je reste cette nuit avec vous, comme un mari ?»
Elle a la gorge qui se serre. Elle ne sait quoi lui dire. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Semer le vent. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.